Popopienne, Popopien et tous les autres aussi, bonjour. On ne va pas se le cacher ni réécrire l'histoire. Quand Depeche Mode est apparu sur la scène musicale, les oreilles de votre serviteur étaient plus tournées vers des groupes comme le Clash, Stranglers, Dr. Feelgood et autres Springsteen que vers cette nouvelle scène alors émergente où les synthés dominaient et les préoccupations capillaires semblent être le souci majeur de ces interprètes, regroupés du reste sous l'appellation générique et péjorative de garçons coiffeurs. Il faut dire, pour notre défense, que nous nous remettions à peine de l'offensive post-punk du mouvement dit des nouveaux romantiques qui avait déjà passablement chauffé les esprits de tous les amateurs de pure électricité rock'n'rollienne. Mais il y a toujours une rédemption possible en ce bas monde, comme l'a prouvé la carrière solo de Dave Gahan, leader du devenu légendaire Depeche Mode. Il s'exprime dans Popopop aujourd'hui, mais avant de l'écouter, je vous propose de passer quelques instants en compagnie d'une jeune femme dont nous vantons les mérites depuis quelques saisons dans Popopop, une autrice, réalisatrice, productrice, omniprésente dans la nouvelle fiction française. Elle s'appelle Clémence Madeleine Perdria et c'est elle qui ouvre le bal. Cette émission a pour titre des Pepepeche Mode. Pop, c'est parti.
France Inter. Pop. Antoine de Gaulle.
Et j'ai l'impression de tomber blablabla. Bonjour Clémence Madeleine Perdria et bienvenue dans cette émission.
Bonjour.
Quelle est votre chanson préférée de Depeche Mode?
Alors, sans grande originalité, Enjoy the Silence.
Vous vous souvenez de l'air? Bon, ça suffit. Nous aurons l'occasion d'en parler car Dave Gahan, le légendaire membre du groupe Depeche Mode, nous a accordé une interview à découvrir dans un instant pour nous parler de son nouveau projet et vous aurez droit, comme chaque semaine, à votre dose de n'importe quoi.
N'importe quoi.
Mais où est passé mon cerveau ?
Mais avant ça, faisons connaissance, Clémence Madeleine Perdria. Vous êtes donc auteure, réalisatrice, productrice, et nous allons parler de toutes vos casquettes ensemble. Mais le point commun de ces casquettes, enfin le porte-manteau sur lequel elles sont accrochées, ces casquettes, hein, si je puis dire, c'est le fait de raconter des histoires, dites-vous, que ce soit au cinéma, dans les séries ou ailleurs.
Oui, absolument. C'est une continuité logique avec ce que je préférais faire quand j'étais enfant, c'est-à-dire raconter pendant des heures des histoires à peu près à tout le monde, ma famille, mon frère, mes cousins, cousines. Et c'est ce que j'aime faire, oui.
Vous avez fait d'un hobby un métier.
Exactement.
Si je résume. Bon, je sais que vous avez toujours aimé prendre des notes, raconter des histoires à votre petit frère et aux enfants que vous gardiez comme babysitter. Si vous aviez été enfant unique sans avoir besoin de travailler, vous ne seriez donc pas là aujourd'hui avec nous?
Oui, c'est possible. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu un goût pour les récits, un goût pour les histoires. J'avais aussi des parents qui me racontaient par le cinéma ou par l'histoire de l'art des récits. Et c'est quelque chose qui était toujours présent, en fait, dans ma vie. Et très vite, je me suis rendu compte que c'est ce qui m'intéressait le plus, même quand je rencontrais des gens qui me racontent des histoires. Et donc, c'est devenu très logique plus tard d'écrire des scénarios.
Vous avez croisé beaucoup de gens qui vous ont raconté des histoires ?
Oui, parce qu'en réalité, beaucoup de personnes aiment parler. Aiment parler d'eux, aiment parler de ce qui leur est arrivé. Et très souvent, quand on demande un peu, ils aiment bien faire des récits.
Oui, c'est ça, mais il faut aider les gens à raconter leurs histoires.
Certains n'ont pas besoin de beaucoup d'aide.
Ah bon.
Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de gens qui aiment parler, qui aiment se raconter. Et voilà, et moi, c'est quelque chose que j'aime faire écouter aussi.
Clémence Madeleine Perdria, c'est votre maman qui vous a transmis le goût de l'imaginaire et de l'écriture, car chez vous, il n'y avait pas de télévision. Alors, question piège à la Jean-Jacques Bourdin, que je pose avec un micro de match de boxe. J'attends qu'il descend. Voilà. Hop ! Est-ce que vous conseillez aux parents d'éloigner à leur tour les enfants des écrans pour stimuler leur imaginaire et l'écriture, ou au contraire de s'en servir abondamment pour le travail? Question piège, disais-je, répondez, les Français veulent savoir.
Eh bien, je pense que c'est une question d'équilibre. Moi, j'ai une toute petite fille, donc je me pose vraiment cette question, parce que c'est vrai que les écrans sont omniprésents, elles nous voient beaucoup plus sur nos téléphones. Je pense que moi, quand j'étais petite, où mes parents n'étaient pas accrochés à un smartphone, mais c'est vrai que je crois que ça m'a aidé de déployer mon imaginaire en utilisant des poupées, des petits jeux, des objets, et que les écrans peuvent très vite abrutir un peu les enfants.
N'ayons pas peur des mots. Bon, vous êtes là et vous êtes bien là aujourd'hui, Clémence Madeleine Perdria. Et nous allons continuer à découvrir votre univers dans un instant. Dans cet univers, on retrouve un artiste que l'on aime beaucoup à Popopop. C'est Albin de la Simone, que je vous propose d'écouter tout de suite avec son morceau Tinasi Lee, avec Yael Naïm, avant d'en parler.
sûr si c'était à refaire, je le referais maintes fois. Si encore je faisais l'affaire, si encore tu voulais de moi.
Bien sûr si c'était à refaire, je le ferais évidemment. Le cœur et la raison diffèrent, mon amour, mon poison violent. Nous n'avons pas connu la guerre, les tranchées dans l'appartement. Pour cela, j'étais bien trop fière, la mort frappait finalement.
Si nous avons croisé le fer, c'est dans le coton seulement. Mais mon amour, tu le vois rouge se faire que je voulais blanc.
Tina Sili, Tina Sili, Tina Sili, Betty. Bien sûr, si c'était à refaire, je le referais autrement.
Bon, j'y crois, enfin j'espère, j'espère y croire ou je me mens.
Mais pas de retour à la terre, un tulle que je voulais blanc.
Tu viens d'arracher ma robe et veux me perdre dans les champs.
Tina Sili, Tina Sili, Tina Sili, Tina Sili, Tina Sili.
Tina Sili, ça signifie épouse-moi, et c'est ce que viennent de nous chanter Yaël Naïm et Albin de la Simone pour le plus grand plaisir de notre invitée Clémence Madeleine Perdria, car c'est Albin de la Simone qui a signé la musique du film court multiprimé que vous avez co-réalisé avec Nathaniel Hachlimi. La vie de château, c'est comme ça qu'on prononce ?
Hachlimi.
Hachlimi, ouais. D'accord. Toutes mes infos sont absolument exactes, on est d'accord ?
Tout à fait.
Bon. Et ça tombe bien parce que je vous présente une châtelaine qui sait vivre avec son temps, en se déplaçant avec sa trottinette électrique. Bonjour Charline
Deron. Je vous fais le coucou Elisabeth,
ça vous va ?
Bonjour.
Charline, la vie de château, ce n'est pas le biopic de Stéphane Bern, mais alors de quoi s'agit-il ?
Eh bien, je m'apprête à prononcer une phrase très étrange. C'est un très beau film animé sur le deuil, puisque Violette, votre héroïne, est désormais orpheline. Elle part vivre avec son oncle Régis, agent d'entretien au château de Versailles. L'enfant timide est bien décidé à le détester, mais...
Vous hébergez une pupille de la nation, maintenant. Ça ne peut pas durer comme ça.
Oui, ben je fais ce que je peux. Violette, qu'est-ce que tu fais là ?
Lâche-moi !
Comment est-ce qu'il pue ?
C'est mon oncle, Régis.
T'es chez lui maintenant ?
Oui.
Mais je vais rentrer dans mon vrai chez moi.
Si vous trouvez que l'oncle Régis a une voix à vous faire allonger sur un divan de psy, c'est normal, c'est Frédéric Pierrot qui le double. Clémence Madeleine Perdria, comment Violette et son oncle Régis sont-ils nés ?
Alors, ils sont nés d'un appel à projet de France Télévisions qui souhaitait... produire une collection de films mettant en scène des héroïnes contemporaines. Le mot important étant héroïne, puisqu'ils trouvaient que ça manquait un peu dans la fiction jeunesse. Et donc, avec Nathaniel, qui est un ami de longue date, on a commencé à réfléchir. Et assez vite, j'ai écrit cette histoire. On était en 2016, donc les attentats étaient très proches de nous. Et c'était ce qui me semblait à l'époque tristement contemporain. Mmh. Et je me suis dit que j'avais envie d'écrire quelque chose qui puisse être... à la fois un film vraiment destiné aux enfants, mais qui puisse aussi permettre aux parents d'aborder ces thèmes-là avec eux. Et à partir de là, on a commencé, moi, à écrire, Nathaniel à dessiner, et ensemble, à co-réaliser ce qui allait devenir cet unitaire de 30 minutes de la vie de château.
Clémence Madeleine Perdria, la vie de château a été couronnée de prix, et c'est bien normal hein, pour, quand on parle de château, mais est-ce que vous vous attendiez à une telle reconnaissance ?
Non, parce que on a mis presque 3 ans à le faire, et que l'animation, c'est vraiment un domaine dans lequel le temps et la patience sont de rigueur, et qu'à force de travail et à force de mois qui passent, on ne sait vraiment plus tellement ce sur quoi on travaille en fait. On manque terriblement de recul, et donc avant de jeter le film au Festival d'Annecy,
le jeter
en pâture comme ça au public avec Nathaniel, on se disait oh là là là, mais qu'est-ce qui va se passer? Alors ce qu'on observait, c'est que le film avait une sorte de bonne étoile, c'est-à-dire que on avait les financements, les acteurs qui venaient, Albin qui nous a rejoint. Donc c'est vrai qu'on sentait qu'il y avait un bel écho, que les gens étaient émus, mais on pouvait pas se douter du tout. On avait aussi la peur immense que ce soit trop plombant et que les gens aussi n'aient pas envie de le voir en se disant oh là là, enfance, attentat, et en fait voilà, ça a une belle vie.
Mais alors justement, un film sur le deuil, sur la résilience, c'est pas un exercice des plus évidents. La question se pose souvent quand il s'agit de fiction destinée avant tout aux plus jeunes. Est-ce qu'on écrit à hauteur d'enfant ou au contraire c'est un vrai écueil à éviter ?
Mon sentiment, c'est que écrire à hauteur d'enfant, ça n'existe pas vraiment. J'ai la sensation qu'il faut d'abord écrire de façon sincère et plutôt en se mettant à leur place et ce qu'ils comprennent d'un monde. Et moi, voilà, je donne souvent cette référence, mais c'est vrai que Totoro, c'est vraiment un de mes films préférés. Et Totoro, ça parle de 2 petites filles qui attendent leur mère qui va revenir de l'hôpital. Et c'est très triste en fait, mais c'est quand même un film qui est d'une immense puissance. Et je crois que les enfants sont vraiment proches en réalité de ces sentiments-là qui sont le deuil, l'abandon. Je crois que c'est quelque chose avec quoi ils vivent. Et donc ça me faisait pas peur. Je me disais voilà, on va l'aborder. Et la seule chose voilà où il fallait être vigilant, c'était cette question un peu plombante que pouvait prendre le film.
Et La Vie de Château va continuer sa vie en tant que série désormais.
Oui, tout à fait. On est en train de co-réaliser avec Nathaniel 5 nouveaux épisodes de 30 minutes. Voilà, pour suivre les aventures de Violette et Régis.
Pour quand ?
Alors, normalement, ce sera en fin 2022.
Sur France Télé.
Sur France Télé.
Bien. Et La Vie de Château, le moyen-métrage, parce que c'est peut-être un court-métrage, hein ?
Oui, c'est un court, on peut dire.
Vous appelez ça un court quand même ?
Oui.
Oui, ça dépend du... Bon, d'accord. Alors, c'est encore dans quelques salles de cinéma et ou à revoir en VOD sur MyCanal. Clémence Madeleine Perdria, changeons d'ambiance. Alors si nous sommes dans ce café, c'est parce que vous aimez écrire dans les cafés. Vous aimez donc entendre les discussions de comptoir, ça vous berce, ça vous stimule ?
Oui, là je me sens tout de suite bien. J'aime le bruit du percolateur.
Attendez, je vais vous servir.
Non, c'est vrai que je suis bien dans les cafés, je suis bien dans les lieux un peu bruyants, ça me berce.
C'est dans les cafés que vous avez écrit les séries dont nous allons parler ?
Oui, alors... Pour les séries qui ont été travaillées en atelier, évidemment, j'étais dans les lieux des productions. Mais la plupart du temps, quand je dialogue toute seule face à mon écran, je suis dans des cafés, oui.
Merci, le petit blanc limé, c'est pour mademoiselle Roux.
Madame Roux, oui. C'est ça. Petit, pourquoi tout de suite petit ? Par exemple, parlons de Nona et ses filles, actuellement sur Arte, dont nous avons eu l'occasion de discuter avec Valérie Donzelli. Comment elle est née, cette histoire de femme de 70 ans qui découvre qu'elle est enceinte dans un café ? Non.
Non, alors l'idée...
Il y en a dans les cafés aussi.
L'idée est née dans la tête de Valérie Donzelli. Et puis, assez rapidement, je l'ai rejoint pour travailler sur cette série. Elle avait ce cap dès le début qui n'a jamais bougé, qui était celui de cette femme enceinte. Et il aurait pu bouger ce cap, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui a été beaucoup remis en question aussi pendant le travail, parce que ça faisait peur à pas mal de gens. Et en réalité, il y avait qu'elle, je crois, pour porter cette série, parce que ça a été aussi un développement long. Elle a pas bougé de ce principe-là depuis le début.
Clémence Madeleine Perdria, ces séries dans lesquelles on retrouve votre plume, elles sont nombreuses. On peut aussi citer En Thérapie, car vous avez repris les rênes de cette excellente série pour la saison 2. Charline, allongez-vous un instant et rappelez-nous de quoi ça parle.
Alors, la saison 1 se déroulait à Paris, automne 2015. Philippe Dayan recevait chaque semaine dans son cabinet une chirurgienne en plein désarroi, un couple en crise, une ado aux tendances suicidaires, un agent de la BRI traumatisé par son intervention au Bataclan, alors que lui-même, le psy, était en crise. La saison 2, je parle sous votre contrôle, se déroulera après le confinement. 35 épisodes à fournir, est-ce que vous en êtes sortie indemne ou avec un grand besoin de thérapie, pour le coup ?
J'en suis sortie à la fois très riche de tout ce que j'ai appris. Mmh. C'était la première fois que je faisais de la direction d'écriture, que j'avais une équipe de scénaristes, que j'avais un lien avec Éric Toledano et Olivier Nakache aussi bienveillant vraiment et dans l'apprentissage. Donc j'ai beaucoup appris. J'ai aussi été très fatiguée parce qu'on a travaillé dans un temps qui était court pour essayer de garder cette saisonnalité et que les spectateurs retrouvent le docteur Dayan pas trop tard. Ouais. Donc ça a été fatigant mais passionnant.
Et vous dites, Clémence, vous êtes beaucoup inspirée de votre entourage pour l'écriture de cette série. Alors, question simple, avez-vous encore un entourage ?
Oui, alors c'est vrai que la meilleure des inspirations, généralement, je la trouve autour de moi. Notamment, il va y avoir un personnage dans cette deuxième saison qui est joué par Jacques Weber, qui a beaucoup de cousinage avec mon papa. et je crois que c'est toujours facile d'avoir quelqu'un en tête en essayant d'être fidèle à ce qu'on perçoit de lui. Et ce qu'on connaît bien, c'est nos proches.
Alors revenons aux séries, enfin restons dans la série, mais en faisant un détour par l'année 1978 pour parler d'OVNI que vous avez coécrit. Charline, pouvez-vous remonter le temps pour pitcher la série, comme on ne disait pas à l'époque ?
Mais avec grand plaisir, Didier Mathur est un brillant ingénieur spatial, sauf que sa fusée explose au décollage. Il est donc muté à la tête d'un bureau d'enquête spécialisé sur les ovnis, géré par une équipe que je qualifierais d'un peu fantasque. Sa mission, c'est de trouver des explications scientifiques aux apparitions de soucoupes volantes qui défraient la chronique. Ce qui semble quand même être une punition pour un homme ultra cartésien.
Oui. Alors là encore, on est dans la tête de Clémence Dargent et de Martin Douer, qui sont les créateurs. Je crois que ce qui me plaît vraiment, c'est de rencontrer des gens qui ont un univers fort, qui vont tenir. En l'occurrence, moi, quand j'ai commencé à travailler sur OVNI, il y avait déjà une partie de la saison qui avait été écrite. J'ai travaillé sur la deuxième partie. Et on a fait des ateliers d'écriture. On était donc 5 scénaristes dans une pièce. Et le défi, c'était que il fallait faire tenir de façon narrative cette série qui part dans des pistes qui sont, voilà, on va dire, carrément extraterrestres à certains moments. Et c'était un travail vraiment passionnant parce que j'y connaissais rien et que j'ai appris beaucoup aussi à ce moment-là.
J'espère que vous suivez, amis auditeurs, le foisonnement créatif de Madeleine. Clémence Perdrière.
Vous écrivez tout en même temps, non ?
Non, là il se trouve qu'il y a une sorte de focalisation. D'accord. Parce que les séries sont sorties un peu en même temps. Mais le fait est que j'ai travaillé pendant presque 10 ans sur des séries et qu'il y en a autant qu'on voit aujourd'hui que d'autres qui ne se sont pas faites.
Bien, et pour clore la page de cette série, si je puis dire, Clémence, je sais que vous cherchez un diffuseur pour votre série, à vous. Alors, écoutez, le micro est ouvert, servez-vous tout simplement de la première radio de France pour lancer un appel peut-être.
Eh bien, je développe en ce moment un projet de série qui s'appelle Grand Palais. Et effectivement, on discute avec un diffuseur, mais pour l'instant, voilà, c'est pas encore officiel. Donc c'est vrai que c'est une série que j'aimerais créer et que je porte pour l'instant toute seule.
Grand Palais.
Oui.
On peut savoir de quoi il s'agit ? Non plus.
Non plus.
Bon, très bien. Merci Clémence Madeleine Perdria, merci infiniment de nous avoir rendu visite aujourd'hui.
Merci à vous.
Alors je le disais en début d'émission, Dave Gahan est dans Pop 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 et c'est un événement pop. Un événement pop, ça s'annonce non pas avec des trompettes, sauf lorsqu'il s'agit de Kaamelott, mais avec un morceau extrait de l'album de reprise qu'il signe avec Soul Savers. Et avant d'en parler, je vous propose d'écouter sa reprise de Always On My Mind, autrefois immortalisée par Elvis, pour vous mettre dans l'ambiance.
Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I make you feel second best, girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died. Give me one more chance to keep you satisfied. Should have said and done. I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. You were always on my mind. You were always.
Always on my mind sur France Inter dans ce pop-up-up Dave Gahan, troisième échappée en presque solo pour Dave Gahan, mythique chanteur des non moins mythiques Depeche Mode. Presque solo puisque comme pour les deux précédents, il est accompagné par Soul Savers, des producteurs remixeurs répondant au civil au nom de Ian Glover et de Rich Machin, ce dernier accompagnant Dave Gahan dans l'interview que vous allez écouter. Le nouvel album de Dave Gahan et Soul Savers est un album de reprise et il s'appelle Imposteur. Alors allons-y. Dave Gahan, pourquoi est-ce qu'un artiste qui a vendu des albums par millions, qui a sa place au Rock'n'Roll Hall of Fame, décide d'appeler son album Imposteur ?
Well, initially when,
au départ,
you know, the idea of imposter sort of
quand l'idée
popped into my head for the
d'imposteur
title,
m'est arrivée pour le titre de l'album,
it was because it was, you know, I am the imposter on someone else's
songs. C'était parce que, quelque part, je suis un imposteur quand je chante les chansons. D'un autre.
But you know, that's something that ever since I was a child.
Mais c'est quelque chose que j'éprouve depuis
I
que je suis enfant.
Have felt like,
je le ressens.
Like, even in a group of friends.
Et même parmi des amis.
It gets a little uncomfortable for me.
C'est quelque chose qui me met mal à l'aise, c'est vrai.
So I've always felt a little outside.
Toujours,
of myself.
Je me suis toujours senti quelque part en dehors de moi-même,
in.
Comme si je me regardais de l'extérieur.
But I'm okay with that.
Mais bon, maintenant ça va.
I didn't used to be, but...
Avant, ça passait mal, mais maintenant ça va.
Mieux qu'un imposteur, c'est en réalité un travail d'acteur que vous faites sur cet album, une histoire racontée par d'autres et réinterprétée par vous, Dave Gahan. Alors, comment vous êtes-vous préparé pour ce rôle ?
For me, it's, with songs,
pour moi,
I have to,
avec les chansons,
spend
il me faut
a lot of time.
Passer beaucoup
the
de temps.
Time I have with the songs,
et le plus de temps que je peux passer à travailler une chanson,
whether it's songs
que ce soit
I'm writing,
des chansons que
Rich or
j'écris
someone else,
ou les chansons des autres,
once the song's written,
une fois que la chanson est écrite,
even if I don't really understand
même
why
si je
it's
ne
written,
comprends pas pourquoi elle a été écrite, j'essaie de trouver
like
quelque chose. J'essaie d'y trouver le personnage.
And, you know, it's actually harder with songs
puis,
that come from.
Vous savez, c'est difficile. C'est plus difficile avec des chansons qui viennent.
Words and melodies that come from me.
Avec des mots et des mélodies qui viennent
way.
De moi, en fait. C'est plus dur.
Maybe I'm not so used to it.
Peut-être parce que je suis pas si habitué
songs,
que ça.
Instance,
mais les chansons des autres.
Who's written for me for years in Depeche Mode.
Par exemple, dans Depeche Mode, on a les mêmes auteurs depuis des années.
I don't have to understand why he wrote the song or
et j'ai pas forcément
about,
besoin de savoir pourquoi et quel est le sujet de la chanson.
Myself.
Il faut que j'y trouve quelque chose de moi à l'intérieur.
Rich?
Yeah, I mean, when we got the list of songs we were going to do for this,
quand
we
on a établi la liste des chansons
lived
pour
l'album, for a few months, you know,
on a vécu avec pendant quelques mois.
And you just kind of immerse yourself in them.
Les chansons dans lesquelles on s'est immergé.
Until they feel like your own songs.
Jusqu'à ce qu'on ait l'impression
you know,
qu'elles étaient à nous.
Until they feel quite natural.
et que ça vienne naturellement.
You know, we just spent a couple of months before we went in the studio.
Avant d'entrer dans le studio, on a passé 2-3 mois
listening to these songs
à écouter
every
ces chansons.
Day.
Tous les jours.
Dave started performing them.
Dave a même commencé à les chanter.
I started working out some arrangements
et moi, j'ai travaillé
kind of felt
les arrangements
natural.
Pour que ça vienne naturellement.
And we kind of picked the ones that just
et on a choisi finalement celles qui marchaient le mieux.
Natural to us.
Toutes ces reprises sont pleines de sens pour vous, Dave. Un peu comme la BO d'une vie de Charlie Chaplin à Neil Young, en passant par Bob Dylan, Jane Clark, Elvis Presley. À quel moment avez-vous su qu'elles vous appartenaient, qu'elles étaient vôtres?
I was aware of it before we
j'en avais conscience avant l'enregistrement peut-être.
I felt I was owning the songs,
j'avais l'impression de bien les posséder.
Before we got to Shangri-La,
avant qu'on arrive au Shangri-La, au studio pour l'enregistrement.
Kind of pushed aside the
et puis,
original versions.
J'ai mis de côté les versions originales enregistrées.
Actually, I haven't heard or listened to the original versions
et en fait,
since we recorded.
Je n'ai pas réécouté cette version originale depuis l'enregistrement. La seule que j'écoute encore,
Anton Corbin,
c'est Anton Corbin.
When he listened to the record, I sent him a copy of the
quand
record,
il a
and I wanted to know what
écouté
he
le disque, je lui ai envoyé un exemplaire du disque.
Was,
sa première réaction,
wow,
c'était...
He said, Dave, very brave of you to cover Jeff Buckley's Lilac Wine.
De faire une reprise de Jeff Buckley.
What are you talking about?
Mais qu'est-ce que tu racontes, je dirais?
It's Nina Simone's
c'est
Lilac
Nina
Wine.
Simone qui a créé cette chanson.
And I hadn't actually heard that version.
Et je n'avais pas
and
entendu
I, of course,
cette
I listened
version.
To it.
Et bien sûr, je l'ai écouté.
And it was beautiful.
C'était
Jeff
splendide.
Jeff Buckley. A couple of times and
je l'ai
lovely
écouté
guy.
À plusieurs reprises et c'est un type très sympathique.
But I didn't know the version.
Mais je ne connaissais pas sa version.
I listened to Nina Simone.
Moi, j'écoute Nina Simone.
Around that time,
à peu près à ce moment-là,
I think Anton when Anton first said that to me.
C'est Anton quand il m'a dit ça la première fois.
I was shocked because.
J'étais choqué.
That was the first time I realized.
Parce que c'est la première fois que je me suis rendu compte.
People are going to compare.
Que des gens allaient faire la comparaison.
What we've done.
Entre ce que nous avons fait
the
avec les versions originales.
So, yeah, I thought, okay,
et là, je me suis dit, bon,
go.
D'accord, je
But
vois
I'd
comment ça va se passer.
Lost the originals, months and months before
mais des mois et des mois avant l'enregistrement, j'avais déjà, j'étais complètement déjà écarté des originaux.
Rich?
It was really watching Dave perform them.
C'est en regardant
studio,
Dave chanter.
You know, like the delivery, when we were
son phrasé.
Them. It's like these are his songs now.
Je me suis dit, mais ça, c'est chansons maintenant.
You stop forgetting about the originals and you just.
On a commencé à, du coup, à oublier les versions originales et on le, je l'ai regardé lui qui interprétait. Et c'était de, comme de nouvelles chansons.
When we were in the studio, I was like, the, you know, these are.
C'était dans le studio. C'est là que je me suis dit, bah, c'est ses chansons à lui.
Des standards sur Imposter et des reprises peut-être plus inattendues, mes trois préférés de l'album, The Desperate Kingdom of Love de PJ Harvey, Metal Heart de Cat Powers et Strange Religion de Mark Lanegan. Pourquoi avoir repris ces trois-là?
I mean, Rich and I both love Mark and
Rich et moi, on adore
and his voice.
Mark, sa voix.
And so, I think probably when we even started talking about it,
quand on a commencé à en parler,
early in 2019,
c'était
I think,
au début 2018.
That was probably one of the first. We got to do a Lanegan song.
Et on s'est dit, il faut qu'on fasse une chanson.
I'm certain that that was the first one we picked.
Je suis sûr yeah. que c'est la première qu'on ait choisie.
Yeah, and Strange Religion, you
Strange
know, from
Religion,
that record as well, like
dans ce disque-là,
it's been with me for years. So
c'est une chanson que je porte depuis des années.
That record,
ce
that
disque.
Whole record, actually. And even though that record was recorded sort of very fragmented,
s'il a été enregistré en plusieurs fois,
it sounds like one
c'est un disque
body of work.
Qui est une œuvre en lui-même.
That record we could have done easily. Just Strange Religion was the first one we mentioned.
Il y a quatre chansons qui venaient naturellement quand on a commencé. Strange Religion, c'était clair, mais on aurait pu en faire d'autres.
Wedding Dress.
You know,
there's no shortage of songs that would.
C'est sûr que les chansons ne manquent pas.
I can listen to Mark singing.
Moi, la voix de Mark, je peux l'écouter.
Like forever, you know, it's
tout le temps.
You know, his voice is so cinematic.
Sa voix, c'est comme un film.
And, you know that record, you know, which
et ce inspired me qui m'a inspiré to, and
given the opportunity to work with Rich in the first place,
m'a donné l'occasion de travailler avec Rich pour la première fois.
Introduced me to Soul Savers.
Et quelque part, c'est le disque qui m'a introduit à Soul Savers.
Dave Gahan, Rich Machin, on reprend cette discussion dans un instant, juste après un petit pop break, puisque c'est l'heure des pop news.
Rendez-vous dans un restaurant gastronomique londonien le vendredi avant Noël, soit le jour le plus fréquenté. À quelques minutes du coup de feu, tout le personnel est en ébullition, mais les problèmes s'accumulent autour du chef étoilé Andy Jones. Andy Jones et Stephen Graham, vu dans This is England et The Virtues. Le film s'appelle The Chef, de Philippe Barantini, ambiance tendue.
Come on, everybody. We've got a good menu. We pull together, we'll be fine.
Yes, chef.
Let's move our asses.
Good to see you, mate.
Yeah, nice to see you.
Hello. Critic Sarah Southworth, as you know.
Hello, Sarah.
Hi. I phoned you and you didn't get back.
Okay, look, we've been reviewed on table four. I need you to switch on, yeah?
Yes, chef.
Tendu puisque un critique est dans la salle. The Chef, ce sera dans les salles le 19 janvier.
Pour la première fois depuis 4 ans, il est de retour sur les routes pour une petite soixantaine de concerts. Jack White, qui a annoncé la sortie de 2 albums en 2022, Fear of the Dawn le 8 avril et Entering Heaven Alive le 22 juillet, part aussi en tournée. Il s'arrêtera au Radion à Lyon le 7 juillet et à Paris à l'Olympia du 18 au 20 juillet. Mise en vente des billets le 17 décembre, il n'y en aura pas pour tout le monde.
Il s'appelle Alex Rider, il est jeune et apparemment il rencontre quelques difficultés dans son parcours scolaire.
Alex, this is your third absence. Where have you been? Your coursework's late. You are slipping behind with your grades.
I've got a lot going on.
Forcément, Alex Rider est préoccupé. C'est un agent secret. Dans la saison précédente, il avait dû infiltrer une école correctionnelle pour les enfants de la haute société qui cachait de sombres secrets. Dans cette nouvelle saison, il tente de reprendre une vie normale, mais lorsque le père de son amie Sabina est victime d'une tentative d'assassinat, ses réflexes d'espion prennent le dessus. Alex Rider, saison 2, ça vient de démarrer sur OCS.
France Inter. Pop. Antoine de Caunes.
Alors, de toute évidence, c'est un chien.
Bien, bravo Charline. Eh bien, retournons maintenant papoter avec Dave Gahan et Rich Machin. Allez-y, à vous l'honneur.
C'est la troisième collaboration Dave Gahan, Soul Savers. Comment est-ce que vous la décririez, cette collaboration Rich Machin?
It's very... We have a really great kind of chemistry in what we do.
Ça fonctionne, you know, très très bien entre nous.
We figured that out very
et
quickly.
On s'en est rendu compte très vite.
We share very similar taste in music.
On partage les mêmes goûts musicaux.
And then you also have the other side of it that you can't
et puis, y a aussi
create, which is just like a natural chemistry when you're doing something.
Quand
like,
on fait quelque chose, il s'agit de création.
You know, I've worked with a
moi,
number of artists.
J'ai travaillé avec beaucoup d'artistes.
I'm a huge fan
dont je suis fan
greatly,
et que je respecte. Mais quand on rentre dans un studio, un jour après, je me dis, bon, c'est pas très bien. Et c'est pas du disrespect vis-à-vis de ces... C'est pas un manque de respect. Mais il y a quelque chose qui fonctionne ou qui fonctionne pas entre deux personnes. Et là, on a la chance que, oui, ça fonctionne. La plupart de ce qu'on fait, c'est juste qu'on discute.
What the other person's gonna do.
Et quelque part, on sait ce que l'autre va penser.
Ends up sounding how you heard it in your head beforehand.
C'est un petit peu des conversations qu'on a déjà entendues dans nos têtes.
It's effortless.
C'est sans effort.
But I also appreciate that effortless is an incredibly difficult thing.
Je me rends compte aussi que travailler sans effort, c'est aussi très difficile.
Dave?
Rich mentioned
oui.
The effortless thing.
Rich vient de dire sans effort.
You know, people talk to me about that. Like,
les gens m'en
oh,
parlent pas mal.
You know, you really you make it look so easy.
When on vous écoute et ça a l'air facile.
And I always get a little quiet when
et
people say
je
that
réponds
to
pas
me
trop quand on dit ça, je dis rien.
It's not effortless.
Parce que non, c'est pas sans effort.
You gotta like, you gotta give it all.
Il faut s'y impliquer. Il faut y aller.
And I love doing that.
J'adore faire ce que je fais.
It presents a lot of questions.
Mais ça pose beaucoup de questions.
Dave Gahan, avez-vous réussi à identifier le petit truc, le déclic qui vous fait immédiatement tomber amoureux d'une chanson?
Non, mais c'est ça qui est magique.
Quand
j'entends et que ça clique, voilà pourquoi je suis toujours là. Voilà pourquoi encore,
avec cette
chance qu'on a quand j'écris avec Rich ou quand on a fait ce disque, je sais que je fais la bonne chose et que je sais. Et je ne sais pas pourquoi, parfois. Mais je sais qu'il y a beaucoup de résistance, parfois, de ma part. De me demander, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je fais ça? Et je ne sais pas la réponse à cette question. Mais quand je le fais, je me sens à ma place. Après toutes ces années,
Rich
m'a dit, il y a quelques années, si jamais il ne faisait pas de la musique avec les gens qu'il aimait, si jamais tu ne fais pas de la musique avec les gens que tu aimes, il m'a dit, prends ton van et va-t'en, fais autre chose.
Vous avez donc enregistré Imposter à Shangri-La, les studios du producteur Rick Rubin à Malibu, cela même où Johnny Cash a enregistré ses American Recording Sessions. Est-ce que vous avez choisi ce lieu pour des raisons spirituelles, Rich Machin?
It's close to the beach, I think.
C'est près de la plage.
It was November in England, so that wasn't.
C'était novembre en Grande-Bretagne, donc.
And we were kicking around some ideas and.
Et on cherchait des idées, on a parlé
Malibu
de d'endroits.
Malibu felt like a better fit.
Et on s'est dit, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on tomberait bien?
Et puis voilà, le
studio était là.
Dave?
Moi, je voulais y aller, j'avais vu ça à la télé, avec Ruben,
toutes
ces images-là, ça m'intriguait, sur le Shangri-La.
Il
présente ça comme un endroit magique, où les artistes ont toujours pu s'exprimer librement. Je me disais, ok. Et puis tout est rentré dans l'ordre. Et puis Rick faisait une pause dans son travail. Le studio était disponible.
Et
je me suis dit, si on peut y faire rentrer tout le monde, on le fait. Et dès que je suis entré, j'ai su que c'était. C'est sûr.
The platform and the, you know, the le lieu. Palette or whatever, the canvas.
C'était
to do something.
L'endroit vierge où on pouvait créer quelque chose.
We, you know, could we conjure it up and, you know, we did.
Et c'était là qu'on allait pouvoir faire quelque chose. Et ça s'est bien passé.
Dave Gahan, avec Depeche Mode, vous avez vous-même été beaucoup repris par Nouvelle Vague, Keen, Deftones, Tori Amos, Placebo, Bad for Lashes, les Smashing Pumpkins. Laquelle de ces reprises est votre préférée? Est-ce que c'est celle que je n'ai volontairement pas mentionnée?
Straight away, Johnny Cash is personal.
Johnny Cash, c'est celle.
It's no brainer, really.
Voilà.
Et retour à Shangri-La.
Yeah, well, there's reasons, though, as well.
Il y a des raisons, quand même.
I'm sure Johnny Cash
Je suis certain
never heard of Depeche Mode,
que Johnny Cash n'avait jamais entendu parler de Depeche Mode. Il s'en foutait complètement. Bien sûr, c'était Johnny Cash.
But he made that song his own song.
Mais il s'est approprié cette chanson.
Inspiring to me. And
et ça a été une inspiration pour moi. Parce que ça m'intéressait que si jamais il l'enregistrait, je voulais savoir comment les musiciens avec lui qui allaient créer la musique dans laquelle il pourrait chanter. C'était il y a des années. Mais j'ai rien oublié.
Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares.
Personal Jesus, la version de Johnny Cash, reprise préférée de notre invité Dave Gahan, venu accompagné de Rich Machin, de Soul Savers, pour nous présenter Imposter, un album de reprise dans lequel se trouve Metal Heart de Cat Power.
losing the stars without a sky, losing the reasons why. You're losing the calling that you've been faking. I'm not kidding. It's damned if you don't, and it's damned if you do. Be true, 'cause they lock you up in a sad, sad zoo.
Le Metal Heart de Cat Power à la sauce Devgan et Rich Machin. Car oui, vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et évidemment, dans une émission en compagnie de Devgan, accompagné aujourd'hui par Rich Machin. Messieurs, parlons pop, parlons bien, c'est l'heure de votre pop list. Oh. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique, une série du moment. Dave Gahan, le livre que vous lisez actuellement, c'est Las Vegas Parano d'Hunter S. Thompson, paru en 1972. Charline, manifeste du gonzo journalisme, s'il en est, et un livre toujours aussi poilant 50 ans plus tard.
Tout à fait, mon capitaine. Le journaliste Raoul Duke et son avocat, le célèbre docteur Gonzo, partent pour Las Vegas. Et comme le dit la loi, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, surtout quand le voyage est du genre stupéfiant.
Dave Gahan, pourquoi ce livre ?
I just read it again. My son bought it for me. The opening,
le début,
like, scene, or whatever you want to call it.
Cette scène,
sets the book up perfectly.
C'est quelque chose qui lance le livre.
They always say if you write something, write your first line, make sure you write something true.
Je pense que quand il faut écrire quelque chose, la première phrase est essentielle. Il faut que ce soit sincère. Le reste suit.
Dave Gahan, votre série du moment, c'est Squid Game, créée par Wong Dong-hyuk et diffusée sur Netflix. Charline, c'est la série à ne pas mettre entre toutes les mains, même si elle y est déjà.
456 personnes qui ont toutes des difficultés financières dans la vie sont invitées à prendre part à une mystérieuse compétition de survie, des épreuves d'apparence enfantine, mais qui s'avèrent mortelles au sens létal. Pas génial.
Vous tous ici présents, vivez sur le fil du rasoir avec des dettes que vous ne pourrez jamais rembourser. Si vous ne souhaitez pas participer, merci de nous en informer maintenant.
1, 2, 3, soleil.
Comme le jeu auquel on jouait quand on était gamin.
Squid Game, vous l'avez dévoré, Squid Game?
I binge watch things.
Je fais du binge watching. Et j'ai pas mal regardé.
All of that, and I watched it.
Je l'ai regardé.
In Korean too, with subtitles.
En coréen avec des sous-titres.
You have to.
Il faut ça.
But I love that.
J'adore.
Rich Machin, le film que vous nous recommandez, c'est The Lighthouse de Robert Eggers, sorti en 2019. Charline, c'est un film qui fait peur, comme vous aimez. Le pitch en deux mots.
L'histoire de deux gardiens de phare sur une île mystérieuse et reculée de Nouvelle-Angleterre dans les années 1890.
Tell me, what's a timberman want with being a wiki?
Just looking to earn a living, just like any man. Starting new.
On the run. Keeping secrets, are you?
No, sir.
Watch you spill your beans.
Et pourquoi ce choix en noir et blanc, Rich?
It's beautiful, dark.
C'est beau, like,
it's
sombre.
Just,
The soundtrack's good.
Yeah, la musique est chouette.
I mainly only watch like older films, like
moi j'regarde surtout des films anciens.
And it's not that often that there's been new stuff recently.
Et ça fait longtemps que j'ai pas vu un film récent qui soit fort comme ça. Je l'ai vu 3-4 fois.
Et enfin, Dave Gahan, il me manque une chanson. Qu'est-ce que vous écoutez en ce moment?
Stones. I listen to Stones a lot lately.
Beaucoup,
récemment. Something about.
Je sais pas. Quelque chose.
Maybe it was because Charlie.
Peut-être parce que Charlie est mort. Charlie Watts.
During COVID as well,
pendant
during
COVID,
this whole lockdown,
pendant toute cette période,
to Stones more than
je crois que j'ai écouté les Stones plus que personne.
Eh bien, si Dave Gahan nous conseille d'écouter les Stones, eh bien, on écoute les Stones et on les écoute tout de suite avec, par exemple, ce morceau « Start Me Up ». We'll be right back. Start Me Up, les Rolling Stones, c'était le choix de Dave Gahan, venu dans ce pop-up en compagnie de Rich Machin. Chaque semaine, nous diffusons ici un ovni sonore. Ça a pour titre Le Grand N'importe Quoi et je vous le propose tout de suite.
Bienvenue. Si vous appelez depuis votre téléphone fixe, dites fixe. Si vous appelez depuis votre téléphone mobile, dites mobile. Si vous appelez depuis votre fer à repasser, merci de bien vouloir vous assurer que celui-ci est éteint. Sinon, dites aïe oui.
N'importe quoi, n'importe quoi. Automne 1340. Parti cueillir des champignons dans les bois de Rickveld, Gebrek Angeluk s'égare et tombe par hasard sur le village secret des Schtroumpfs. Souhaitant saluer amicalement ses légendaires petits lutins joyeux, Gebrek se baisse. Mais à peine est-il accroupi qu'il reçoit un violent coup sur la tête et perd connaissance. Ce n'était pas le village des Schtroumpfs, mais celui des vilains petits Schlacks. Et Gebrek sera schlaqué à mort à coups de schlack dans le schlack.
N'importe quoi.
Ok, eh bien mon vieux, vous êtes viré du cours de claquettes.
Le grand n'importe quoi, c'est chaque semaine dans Pop. Merci Alexandre Verret et merci messieurs. Je rappelle que l'album s'appelle Imposteur et qu'il est recommandé par Pop. Merci Charline.
Merci.
À demain. Et merci à toute l'équipe de Pop et à Guillaume Roux et à Sandrine Malon et à Harold Manning à la traduction pour avoir réalisé cette émission. Demain, on se retrouve pour un nouveau numéro de Pop Podcast. Mais avant demain, rendez-vous partout sur les internets 3615 Pop.